8h53 en ce mercredi 14 janvier. Comment ça se passe sur la route? Vous êtes nos yeux, nos oreilles. C'est 418-971-1021 par texto. Vous avez de l'information à nous donner. Max!
L'heure de pointe est maintenant pas mal derrière nous. Reste des grenailles sur Capitale Ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne. Petit problème aussi, Capitale Est entre le boulevard Masson et le boulevard Neuvial. Puis un petit peu d'attente pour l'accès à la Porte-Nord.
Merci beaucoup. Ce matin, toi et moi, on parlait des fameux conflits qu'on avait eus en 2025 entre des syndicats et les employeurs. On en a eu beaucoup. Puis énormément de conflits aussi qui ont pris en otage la population. Qui était pogné là-dedans.
Il y en avait que j'avais oublié dès le début 2025, les CPE, les services de garde, les éducatrices là-bas qui avaient fait la grève. Évidemment, Post-Canada, Air Canada fait parler énormément. Hydro-Québec, où il y avait eu des avis de grève de durée limitée, ça a été réglé. Les transports en commun, RTC, STM, qui ont vécu des arrêts de travail. Environ 3000 ambulanciers en conflit de travail depuis l'été 2025. La construction, souvenez-vous, construction résidentielle qui a été arrêtée pendant une dizaine de jours. Et évidemment, les professionnels de la santé, notamment les médecins, avec les négociations qu'il y a eu en fin d'année. Donc, des conflits de travail en grand nombre et en très grande importance avec les institutions publiques et les employeurs que je viens de nommer.
On va souhaiter une accalmie en 2026, mais en même temps, on ne se le souhaitera pas tant parce qu'on aime bien lui jaser. C'est Marc Rangé, qui est un ex-syndicaliste et qui est avec nous, qui est un chroniqueur. Salut Marc!
Hey, salut! Ouais, j'ai pas envie d'être en chômage, là. Faut que ça continue!
Ben moi, les conflits qui touchent pas la population, j'ai pas de problème. On couvre ça pareil, puis je pense que tout bon employé a le droit à de meilleures conditions année après année parce que le coût de la vie augmente. Donc, une augmentation de salaire qui fait en sorte qu'il perd pas son pouvoir d'achat, moi, je suis pour ça. Je suis pour moi, pour mon compte en banque à moi, mais je suis pour les autres aussi. Mais quand ça touche la population, tu le sais, je suis un peu fragile là-dessus. Je suis un petit gars fragile. J'ai un peu plus de misère. 2025, ça a été une année exceptionnelle au niveau des conflits. Marc, te souviens-tu d'une grosse année comme 2025?
Allez. Non, 2024 et 2025, là, ça a commencé, rappelez-vous, en décembre 2023 avec la négociation du secteur public. Puis il y avait eu la fameuse grève là, des professeurs du côté de la Fédération autonome de l'enseignement qui avait duré 21 jours consécutifs. Là. Fait que ça a comme lancé je vais mettre entre guillemets, les hostilités. Puis ça a continué 2024 très, très intense. Puis 2025, même chose également. Là, Jeff vient d'en faire un bon résumé. Il y a quand même eu des négos qui ont bien tourné parce que vous parliez de la construction, mais la construction, finalement, là, on s'en est tiré sans qu'il y ait eu de grève. Il y a eu de la pression, mais ça s'est même réglé pour la première fois depuis longtemps, avant même l'échéance comme telle. Là, les partis avaient commencé des discussions. Ça a été des très bons règlements, mais je pense que écoutez, ils avaient un très bon rapport de force, même si le gouvernement s'apprêtait à intervenir, parce que la construction, Dieu sait, en période difficile, on a besoin de logements, on a besoin de... Il y a de la construction partout, fait que bref, mais ça s'est quand même bien réglé sans conflit. Mais Post-Canada, c'en est un qui est interminable. Là, bientôt, les membres vont pouvoir voter. Mais ça fait presque deux mois qu'une entente de principe a été annoncée chez Post-Canada. Puis là, ils étaient dans les textes et la situation est urgente. Fait que tu sais, tu vois que c'est difficile quand même parce que c'est rare que tu vois ça, là, qu'il y a une entente de principe puis que les membres n'ont pas encore voté. Mais je ne suis pas inquiet. Je pense que finalement, le syndicat a vu qu'il fallait tout faire pour s'entendre. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle. Là.
Qu'est-ce qui fait, parmi toutes tes années où tu as été syndicaliste, là, qu'est-ce qui fait que le gouvernement attend tout le temps à la dernière minute puis des fois laisse traîner ça pendant des mois et des mois et des mois avant de renégocier une convention collective? Des fois, ça a fait en sorte que la convention collective est échue depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y a un retard. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement laisse traîner tout le temps ça? À qui ça profite?
Bien, ça profite à personne. Puis c'est l'approche de négo, là, puis souvent des deux parties, elle doit être revue. Là. Tu sais, c'est comme ériger en système la façon de négocier. Puis le gouvernement, lui, particulièrement avec ses 600 000 employés, parce qu'il y a des sociétés d'État, il y a les gens de la santé, etc., c'est toujours, puis surtout depuis la CAQ est là aussi, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils vont par des positions. Fait que les politiques, donc les ministres, donnent des mandats à leur au Conseil du Trésor. C'est des positions un peu politiques, des orientations. Puis là, ils peuvent rester là-dessus pendant des mois. Fait que le gros problème, j'avais déjà dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'échange entre les partis. C'est voici nos positions, voici nos orientations, puis c'est de ça qu'on veut parler. Fait que là, tu t'enfarges dans forme pendant Là, ça a duré un an et demi. Fait que moi, je disais, il faut vraiment revoir ça. Il faut avoir un conciliateur dès le départ qui va forcer des échanges entre les deux parties. Fait que ça, c'est un examen de conscience à faire. 2026, là, il va y avoir moins de conflits par la force des choses, parce qu'il y a tellement de secteurs qui sont réglés, il va y avoir moins de conflits. Mais il va en avoir davantage politique parce que c'est une année électorale. On l'a vu, les syndicats qui se préparent par rapport à des projets de loi, tout ça. Fait que ça va brasser de ce côté-là. Mais je pense que c'est l'occasion de commencer à réfléchir un peu, là. On peut-tu trouver une façon de négocier sans se confronter tout le temps? Puis de vraiment commencer par un dialogue. Puis justement, hier, j'avais un dîner avec des gens, des gens en droit du travail, puis ils me demandaient comment je voyais ça pour l'avenir. Mais l'avenir, c'est que les organisations assument davantage les négos, là. Je vais résumer ça parce qu'on n'a pas toute la journée. Mais il faut à un moment donné que ça se fasse dans un cadre plus informel. C'est-à-dire, avant même l'échéance des conventions, de commencer à identifier puis se donner des tables de rencontre pour dire « voici les problèmes qu'on vit ». Puis commencer à réfléchir sur, au lieu des textes, lâchez-moi les maudits textes qu'on s'échange puis qui ne sortent pas des positions, puis parlez-vous des problèmes, puis après ça, vous vous pencherez à l'inverse sur, OK, maintenant, comment on peut faire pour les régler? On s'entend-tu sur ces problèmes-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de les régler? Il faut revoir le modèle de négociation, puis ça a été en partie dû avec le fait que, tant du côté du gouvernement que des organisations patronales, que des organisations syndicales, depuis la pandémie, il y a eu des départs massifs. Beaucoup de gens avec beaucoup d'expertise qui sont partis, puis ça fait en sorte que les gens qui ont moins d'expérience de négociation, le réflexe, c'est plus la confrontation parce qu'ils vivent beaucoup d'insécurité puis ils ne savent pas comment adresser les problèmes. Fait que dans ce temps-là, fais appel davantage à la conciliation puis davantage à un cadre moins formel qui va faire en sorte que ce sera moins aseptisé.
Marc, parce que le contexte a changé à l'heure actuelle. Et puis là, je vais parler autant pour entreprises privées qu'organismes publics. Il y a encore quand même une certaine rareté de la main-d'œuvre. Puis du côté, là, justement, là, des syndiqués, bien, aller en conflit de travail, c'est énormément de pertes monétaires avec un pouvoir d'achat qui a diminué. Alors, on ne peut plus vraiment attendre la fin des conventions collectives puis dire « Ah, je vais sortir mon droit de grève, ça va vraiment être mon moyen de pression extrême. » Et même principe du côté de l'employeur de dire « Je vais faire un lock-out ou je vais étirer la sauce. » On n'est plus dans ce contexte-là, autant chez l'employeur que le syndiqué.
On n'est plus dans ce contexte-là. On n'a plus le luxe parce qu'il y a des gros problèmes qui s'en viennent, là. L'intelligence artificielle, on le voit, ça va créer des milliers de mises à pied. Il va y avoir des impacts majeurs pour certaines catégories d'emplois. Les organisations, puis la division au Québec, là, c'est assez. Puis le gouvernement l'a alimenté un peu au niveau des... On l'a vu des médecins, mais dans différents groupes, et avec des projets de loi qui divisent. On n'a plus ce luxe-là. Moi, je souhaite pour 2026, les organisations syndicales qui disent au gouvernement, au lieu d'essayer de faire sauter la CAQ aux prochaines élections, là, de se concentrer peut-être à essayer d'établir un nouveau dialogue, bon, puis d'identifier, voici des gros problèmes qu'on a. On peut-tu arrêter de s'attaquer puis de se diviser puis regarder comment on peut travailler ensemble? Puis les citoyens, eux autres, voteront quand ce sera le temps, mais en attendant, là, je pense qu'il y a urgence d'agir.
Est-ce que 2026, parce qu'on est dans une année électorale, François Legault va peut-être être un peu plus ouvert lorsqu'il s'agira de négociations avec les fonctionnaires, de façon à peut-être laisser un bon souvenir pour les prochaines élections?
Bien, les négociations avec les 600 000 employés de l'État, c'est à peu près fini. Il reste les ingénieurs, vous receviez le Marc-André
ce matin. Oui.
Ce matin, là. Et il reste quelques négociations, mais très peu. Mais là, le gouvernement, là où il peut lâcher du lousse, c'est le projet de loi 3. Moi, j'inviterais la CAQ à réfléchir, là. On l'a vu avec les médecins, ça n'a rien donné, la division. Puis le gouvernement, dans le fond, a pas mal cédé à la fin. Mais là, le projet de loi 3, pourquoi pas le mettre sur la glace puis plutôt d'inviter les organisations syndicales à un vrai dialogue sur les gros défis qui s'en viennent puis comment on peut faire autrement au Québec? Parce que là, on a des menaces très sérieuse au sud de la frontière. Vous avez entendu encore hier Donald Trump, le président américain, qui dit qu'il n'y a pas besoin du Canada, mais pas plus du Québec, hein, quand il dit ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, là, on a des très gros enjeux. Il faut sortir de notre bulle puis regarder comment on peut, à plus long terme, protéger le bien des Québécois.
Ça semble être complexe, les négociations au massif de Charlevoix entre les employés et la partie patronale. As-tu des insights de ce qui se passe à cet endroit-là présentement? Est-ce que ça va se régler?
Ce que je peux dire sur ce conflit-là, c'est que ce que je trouve dommage, c'est que il y a bien des centres de ski au Québec qui appartiennent pas à des intérêts québécois. Puis, tu sais, je regardais Mont-Tremblant qui a des intérêts qui sont particuliers. Même le Mont-Saint-Anne, c'est un bail amphithéotique avec un milliardaire albertain, puis il n'y a pas d'investissement au Mont-Saint-Anne, puis ça traîne, puis c'est l'enfer. C'est jusqu'en 2093, le gouvernement ne pourra pas trop exiger quoi que ce soit. Mais là, je regarde au Massif, là, puis le Massif, c'est des intérêts, c'est Daniel Gauthier, cofondateur du Cycle du Soleil. Je sais qu'il a beaucoup investi au Massif de Charlevoix. Il faut trouver une façon, leur défi, la convention, eux autres, vient d'expirer, ça ne fait pas une éternité, là, et puis déjà, ils sont en grève. Fait que la solution, c'est pas de compromettre la station de ski. Moi, c'est un bel exemple, le Massif, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, mais je pense qu'il faudrait que, même au niveau de la CSN qui est présente, que ce soit la présidente de la CSN qui jette un coup d'œil de ce côté-là, avec M. Gauthier, ou en tout cas, en haut lieu, pour regarder comment ne pas compromettre toute une région actuellement pour une saison qui est importante, alors que c'est un employeur qui a beaucoup investi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un Québécois. Fait que je comprends qu'il y a aussi des priorités salariales au niveau des employés, mais c'est le bel exemple où la grève, là, elle aide, actuellement, elle n'aide pas personne, ça compromet la saison. Fait que moi, ce que j'invite, c'est des deux côtés, il y a possibilité, on sait que c'est au niveau des salaires, mais ça prend un leadership qui vient des organisations directement, je pense, dans un cas comme celui-là. Puis tu sais, le défi qu'ils ont, c'est que souvent les employés, là, il y en a beaucoup là-dedans, que des fois, c'est pas nécessairement leur premier gagne-pain. Je te dis ça parce que j'ai vécu des situations analogues. Fait qu'à un moment donné, ça fait moins mal au portefeuille de dire on a un conflit. Fait que ça, là-dessus, ça, c'est un peu délicat. Beaucoup, oui, dépendent de ça, mais ça fait en sorte que le conflit, pour certains, est plus facilement acceptable. Mais c'est là où ça prend du leadership pour dire toute la région souffre. C'est des emplois qu'on doit protéger en même temps.
Exact.
Puis c'est un employeur québécois. Fait que on peut-tu sortir du mode traditionnel?
Parce qu'actuellement, les négociations sont au point mort au massif de Charlevoix. Ça touche les employés, ça touche la partie patronale, mais ça touche aussi toute l'industrie touristique, les commerçants qui sont autour, les hôtels, les motels qui sont là. C'est assez particulier comme situation. Qu'est-ce qui peut y arriver? Est-ce que le gouvernement peut intervenir? Je sais que Karianne Bourassa a envoyé un communiqué hier là, où elle dit qu'elle peut, elle peut aider à la cause là, tout en respectant ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Est-ce que le gouvernement peut intervenir dans ce dossier-là?
Ben, il ne peut pas intervenir, servir des lois en place pour essayer. C'est un conflit quand même privé. Puis, tu sais, ce n'est pas un conflit qui va... Mais le gouvernement, oui, il peut répondre à la question au niveau politique, tu comprends, là, au niveau de sensibilité, d'essayer de favoriser le rapprochement entre les partis. Mais je pense que dans un cas comme ça, c'est quand même un bel exemple où la présidente de la CSN avec le PDG pourrait avoir des discussions. C'est pas de bypasser le syndicat ou les gens à table de négociation, mais c'est de dire que là, ça compromet toute une région. Il faut regarder des voies de passage intelligentes, puis quitte à se donner un peu plus de temps. Je comprends qu'ils ont le rapport de force parce que l'hiver, c'est là, mais tu sais, ça peut laisser de grandes séquelles quand on abuse aussi d'un rapport de force. Fait que moi, là-dedans, je vais rester optimiste, mais ça prend une solution à court terme, à mon avis, au massif, là, à court terme.
Marc Rangé, c'est toujours un plaisir.
Hey, merci à vous autres.
Bye. Bye. 9h06, minutes, on va faire une courte pause. 418-971-1021, 418-971-1021. Les gens qui demandent si l'entrevue avec Marc Rangé sera disponible sur notre site Internet ou encore sur notre application, ben, c'est toujours là, quelques minutes après les entrevues. Sinon, ce sera après l'émission. Puis, si vous n'avez pas l'application, ben, c'est possible de la télécharger. Si vous avez un haut-parleur intelligent, dites simplement « Écoutez BLVD 1021 à votre Google Home ou encore Alexa et ça va fonctionner. » Mais toute notre stock, on le met sur le site Internet ou encore sur l'application. Max?
L'heure de pointe qui est terminée. Par contre, accident Capitale-Est, hauteur Rivière-Saint-Charles, ça cause de bons problèmes.
Merci beaucoup. Boulevard 102.1. Marceau.